rendez-vous sur WhatsApp. Pour recevoir toutes nos infos, nous envoyez vos messages audio. Inscription gratuite sur dw.com/WhatsApp.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'être chef de la diplomatie de votre pays ?
C'est beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas un sentiment propre à une activité personnelle ou une réussite personnelle. C'est plutôt la responsabilité de représenter son pays à l'étranger et surtout de mettre en œuvre une diplomatie comme voulue par le chef de l'État.
Vous êtes très jeune. Quel est le regard que les autres, qui sont plus anciens, qui sont plus âgés, portent sur le travail que vous faites au sein du gouvernement ?
Être jeune, c'est quand même relatif. Nous avons eu des premiers ministres qui avaient presque le même âge que moi. Je pense que c'est juste une perception. Ce n'est pas une question de jeunesse aussi, c'est une question d'expérience. Je pense que le regard est plutôt positif, mais vraiment ce qui importe, c'est la manière dont je porte l'image de mon pays à l'étranger, la manière dont je défends les intérêts des Maliens à l'étranger et la manière dont je porte les idéaux que le Mali aimerait apporter sur la scène internationale.
Et quelles sont les actions menées par le gouvernement pour justement prendre en compte les différentes préoccupations des jeunes Maliens ?
Alors tout d'abord, nous avons différentes activités gouvernementales en rapport avec les jeunes du Mali. Nous avons au sein de notre gouvernement de nombreux jeunes, j'imagine que vous l'avez remarqué vous-même. Et nous travaillons constamment à essayer de trouver des solutions pour voir comment leur trouver un emploi, comment leur offrir des opportunités d'emploi, mais surtout leur offrir des opportunités de formation qui va leur permettre d'avoir un marché de l'emploi plus vaste, qui ne s'étendra pas nécessairement qu'au Mali, mais également dans la sous-région ou pourquoi pas même à l'international. C'est le parcours que j'ai eu. Ce serait un plaisir pour nous d'avoir plusieurs programmes de formation et des opportunités de formation de jeunes Maliens à l'étranger pour leur permettre de revenir au pays et exercer avec de nouvelles idées et une créativité qui va nous permettre de sortir des défis que nous rencontrons.
Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes, surtout de la région de Kaï, mais aussi ailleurs au Mali, qui cherchent quand même plutôt leur avenir en Europe au lieu de rester au Mali. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour ces jeunes-là ?
Alors, vous savez, la question de la migration au Mali, c'est une question culturelle. Mon père lui-même a quitté le Mali à l'âge de 21 ans, 22 ans. J'ai moi-même quitté la France à l'âge de 19 ans parce que j'avais besoin d'aller voir ailleurs. La question de l'immigration au Mali, ou de l'émigration, c'est vraiment une question culturelle. Le Malien aime quitter son pays, explorer l'étranger pour revenir ensuite chez lui. Déjà démontrer sa réussite et réinvestir. Et ça, c'est vraiment culturel. Donc, nous ne cherchons absolument pas à stopper l'émigration. Mais ce que nous cherchons à faire, c'est la réguler, la rendre humaine. C'est-à-dire qu'on désirait plutôt que ces jeunes-là ne prennent pas des bateaux, mais plutôt des avions avec des passeports et des visas. Et qu'ils aient un objectif clair, puisque le monde a changé. L'immigration des années 60 n'est pas l'immigration de 2019. Donc l'objectif n'est pas de stopper l'immigration, mais de la rendre régulière, légale et plus humaine.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour cela ? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes en Allemagne aussi ?
Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'on a un effort de sensibilisation à faire déjà au Mali, à expliquer aux jeunes que, par exemple, prendre le bateau, ce n'est pas nécessairement la solution. Trouver des moyens de s'épanouir dans son pays, c'en est une. Mais pour ceux qui ont vraiment le désir de s'expatrier, il y a différents moyens de mettre cela en musique. Ce que nous faisons avec nos partenaires européens, par exemple, c'est de trouver des moyens pour qu'ils permettent à cette immigration de venir travailler ou étudier de manière légale dans ces pays-là. Et ça sera un moyen pour nous, en tout cas, de régulariser cette immigration.
Beaucoup de migrants maliens qui arrivent en Europe renvoient de l'argent à leur famille par la suite. Donc ça, c'est une source financière non négligeable. Mais cet argent, par contre, va, disons, dans les poches des familles et pas dans les poches de l'État. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'État pour canaliser cet argent ?
Excellente question. Alors, nous avons une politique nationale de la migration. Nous avons un ministère des Maliens de l'extérieur qui s'occupe justement de cette question. Et comme vous l'avez dit, et justement, les fonds des Maliens de la diaspora qui sont envoyés au Mali vont essentiellement dans la consommation. Et nous, nous cherchons à travailler avec nos partenaires étrangers, mais également, nous avons des éléments de notre politique nationale de la migration qui veut chercher à transformer ces investissements, ces envois, les rémittances en investissement dans l'économie malienne en elle-même. Nous voulons créer des entrepreneurs avec ces fonds-là, pourquoi pas, mais surtout créer de la plus-value. Et c'est ce qui manque. C'est vraiment ce qui manque et c'est ce qui a manqué pendant, je dirais, des décennies. Les membres de la diaspora malienne ont construit des écoles, ils ont construit des cliniques, mais ils ont surtout financé la consommation et ça doit changer.
Est-ce que vous avez des ambitions politiques, peut-être après la diplomatie ?
Pas pour le moment. J'aimerais réussir ma mission à la tête de la diplomatie et puis, Inch'Allah, on verra après.
Oui, le président Ibeka a son dernier mandat, même s'il en est juste au début. Vous y pensez peut-être être candidate à l'issue de son mandat ?
Absolument pas. Non, absolument pas. J'ai vu de près à quoi ressemblait le travail d'un chef d'État. Ce n'est pas aisé. Je pense que pour le moment, être chef de la diplomatie, ça me suffit largement.
Mais justement, être chef de la diplomatie en tant que jeune femme qui a la mi-trentaine et qui est justement une femme, est-ce que c'est pas très difficile ?
Je vois pas en quoi ce serait plus difficile que d'être un chef de la diplomatie homme à 35 ans. J'ai les mêmes soucis, j'ai les mêmes ambitions.
C'est pas de votre perspective, mais de la perspective des autres, parce que soyons honnêtes avec nous-mêmes, une jeune femme a toujours plus de difficultés dans un milieu politique qu'un jeune homme.
Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. J'ai eu la chance justement de grandir dans une famille où je n'ai absolument jamais senti le fait que j'étais une fille ou une femme. J'ai évolué, en tout cas dans le domaine professionnel, dans des milieux extrêmement masculins. Je ne vois pas ça du tout comme un défi, je dirais même un avantage.
Mmh. Oui, peut-être qu'effectivement, on peut en faire un avantage quand on ne se laisse pas intimider par le milieu masculin, justement.
Et justement, parce que j'ai évolué dans un milieu professionnel où mes collègues étaient à 99% des hommes, je ne vois pas vraiment de grands changements.
Est-ce que vous avez un conseiller, justement, pour d'autres jeunes femmes qui sont dans la politique ou même pour des jeunes femmes d'une manière générale ?
Oui, alors, il m'arrive souvent d'être invitée justement sur des plateaux pour parler à des jeunes dames ou des forats dans lesquels je parle avec elles. Mais je leur répète toujours la même chose, c'est que être femme, c'est de nos jours, il n'y a pas question d'un handicap. Ce n'est pas un handicap du tout. Vous allez dans les mêmes écoles que ces jeunes hommes. Je vois pas pour quelle raison vous serez intimidée ou quoi. Vous êtes à votre place. Et après, c'est à vous de vous imposer.
Dernièrement, on a vu le sommet des pays du G5 Sahel, des pays membres se réunir. Le G5 Sahel peine toujours à démarrer vraiment. Qu'est-ce que vous faites entre le ministère des Affaires étrangères, des pays membres, pour que vraiment le G5 soit lancé, qu'il atteigne le maximum de ses soldats et les fonds nécessaires ?
Alors, entre nous, nous communiquons énormément. Nous avons des réunions au moins une fois par mois. Et lors de ces rencontres, nous nous coordonnons par rapport aux différents plaidoyers que nous faisons à l'endroit de nos partenaires à l'international. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de financement. Je pense qu'il nous incombe de mieux expliquer le G5 Sahel, de mieux expliquer ce qu'est la force conjointe, de mieux expliquer ce qu'elle peut faire, ce qu'elle pourra faire, et surtout d'insister sur le fait qu'il s'agit d'une solution régionale à un problème régional qui a été mise en place par les pays du G5 Sahel eux-mêmes. Donc c'est une solution qui vient de pays africains pour régler des problèmes africains. C'est pour cela que le soutien de la communauté internationale est important. Et je pense que dans nos activités au quotidien, il n'y a pas un jour pendant lequel on ne parle pas du G5 Sahel ou de la force conjointe. C'est un peu la seule solution qui existe et qui nous reste pour mettre fin aux défis sécuritaires et de terrorisme qui existent dans la région du Sahel. Je ne vois pas d'autres mécanismes qui permettraient de faire face à cette question de manière aussi organisée. Et sur le long terme.
Au mois de novembre 2018, on a appris que très probablement les Français ont réussi à éliminer le terroriste Amadou Koufa, qui était un peu le bras droit aussi de l'autre terroriste Iyad Agali. À quand donc la victoire sur Iyad Agali et son GSIM ?
Je ne sais pas lire dans le futur, malheureusement, mais je sais que les forces de défense et de sécurité maliennes font tout pour venir à bout de cette menace terroriste. Et puis, il est important aussi de noter qu'il serait quand même réducteur de dire que la menace terroriste au Mali ou au Sahel se résume à un seul homme.
Bien, peut-être la dernière question, qu'est-ce que vous attendez peut-être de l'Allemagne, qui est un partenaire quand même crucial du Mali ?
Alors non seulement l'Allemagne est un partenaire crucial, mais c'est un partenaire historique du Mali, c'est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance du Mali. L'Allemagne, en tout cas en Europe, est un partenaire sûr pour nous. Les Allemands sont très pragmatiques dans leur méthode de travail, mais surtout dans la manière dont ils dirigent leur aide internationale. Donc c'est de ce type de partenariat dont nous avons besoin. Les questions au Mali ne se résument pas nécessairement à la question de la sécurité, mais c'est vraiment la question d'urgence du moment. Et nous pensons que l'Allemagne peut énormément nous aider dans ce cadre-là, notamment dans le domaine des armements, de l'assistance, dans la formation des forces de défense et de sécurité. Et pourquoi pas, dans notre plaidoyer, de rendre la force conjointe du G5 Sahel pérenne et opérationnelle.
Quand est-ce que vous pensez que les touristes pourraient revenir à Tombouctou et au Mali d'une manière générale ?
C'est une question très difficile que vous me posez là. Il est vraiment difficile de dire quand est-ce que cette situation se résorberait. Je ne peux pas vous dire qu'il est facile, aisé et de se rendre à Tombouctou ou à Gao ou dans d'autres régions du Mali qui sont aussi belles les unes que les autres. Mais je pense que nous aurons quand même besoin de quelques années pour retrouver notre stabilité d'antan.
Madame la ministre, merci.
Merci à vous.